Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce mercredi 15 juillet 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc Martin, avant de plonger dans notre sujet principal, faisons qu'est-ce qu'on fait à tous les semaines. Prenons quelques minutes pour faire le point sur les marchés.
Bien, d'abord, au niveau des nouvelles géopolitiques, là, on a peut-être un regain d'hostilité là, au Moyen-Orient. Ça a eu comme impact, évidemment, de faire augmenter le prix du pétrole. Donc, on était autour de 75 $ le baril la semaine passée. On était à 70 $ à la fin juin. On est à 80 maintenant, là, donc quand même une hausse significative. Au niveau des marchés boursiers, par contre, ça n'a pas eu d'impact trop négatif. Le TSX, légère hausse cette semaine de 0,1%. On est en hausse de 1,3% pour le mois de juillet, 11,4% depuis le début de l'année, donc ça va très bien. Le S&P 500 en hausse de 1,5% cette semaine, 0,6% pour le mois, 10,2% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, un petit peu plus fort, 1,1% de hausse. On va vraiment voir, par contre, le Nasdaq, c'est vraiment comme deux histoires différentes. Là. Les compagnies qu'on dit de hardware, là, donc de matériel, les microprocesseurs pour l'intelligence artificielle et tout ça, ça performe bien. Par contre, les compagnies de conseils informatiques, là, on parle ici par exemple des IBM, des CGI, ça c'est tough. Là. On a vu hier les résultats financiers de IBM, pas bon du tout, baisse du titre de 25%. L'explication qu'on avait de ça, puis ça fait quand même pas mal de sens, là. Les entreprises ont un budget informatique limité, là. Tu sais, t'as la sécurité, t'as le hardware, le matériel, puis t'as les services. Mais actuellement, il y a une inflation, il y a une forte hausse des coûts du matériel, là, les microprocesseurs. Bien, le budget étant limité, bien, il faut que tu coupes quelque part. Tu peux pas couper dans la sécurité. Donc, tu coupes dans les services informatiques. Ça va peut-être revenir à la normale éventuellement. Là. Donc, s'il y a quelques clients qui ont du CGI, ce n'est pas un titre qu'on a généralement beaucoup, mais c'est un titre québécois là, qui est très, très connu. S'il y en a qui se demandent pourquoi CGI ne va pas bien, c'est un peu pour ça là, que ça va un petit peu moins bien. Autrement, il y a quand même d'autres titres qui continuent de vraiment très bien faire. Là, Banque Royale, Banque TD, BMO, Sommet Historique. On parle de hausse là, de 65 à 70%. Pour l'année, là, pour dans 12 derniers mois pour des titres bancaires. Fait que c'est quand même assez impressionnant comme performance. C'est quasiment des rendements de compagnies et de technologies, mais pour nos bonnes vieilles banques poussiéreuses là, qui continuent de générer des profits et de payer des dividendes. CN continue de bien faire. Savaria, nouveau sommet historique. Mine de rien aussi, Waste Connection, l'entreprise de gestion de déchets et de recyclage. Une année quand même, tu sais, dans les derniers 12, 15, 18 mois, un petit peu plus difficile. Mais néanmoins, là, tu sais, subtilement en hausse de 20% depuis la mi-mars. Là, donc, ça fait quand même du bien là, de voir le titre rejoindre un peu la parade. On a parlé de SpaceX il y a quelques semaines. L'entrée en bourse de SpaceX a fait quand même tambour et trompette. Là, on en a parlé beaucoup. Le titre avait été émis initialement à 135. Il a ouvert le matin à 150. Ça l'a monté jusqu'à 225 rapidement. Donc, tu sais, fear of missing out, là, ce qu'on est en train de manquer quelque chose, ben on est revenu à 136$ ce matin. Là. Donc, et les grandes institutions qui détenaient le titre avant l'entrée en bourse, ils n'ont toujours pas le droit de vendre. Là. Donc, les fenêtres qui vont leur permettre de vendre le titre vont s'ouvrir bientôt. On verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est les grandes lignes. En gros, ça va quand même assez bien. Les taux d'intérêt légèrement augmentés là, depuis la semaine passée. Évidemment, le prix du pétrole augmente. Ça a un impact, entre autres, sur l'inflation. On va en parler un petit peu plus. En réponse, bien, les taux d'intérêt sur les marchés obligataires de 10 ans, autant au Canada qu'aux États-Unis, ont augmenté un petit peu.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet qu'on a déjà discuté. Ça fait 6 ans maintenant qu'on fait notre balado. Fait qu'on revoit des sujets, mais on les revoit sur différents angles. Donc, nous allons parler d'un concept que tu as mentionné tout à l'heure, qui demeure toutefois difficile à comprendre, l'inflation.
Ouais.
On entend constamment parler de l'inflation aux nouvelles. L'essence coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher, les voyages coûtent plus cher. J'ai regardé. Mais qu'est-ce que l'inflation exactement? Pourquoi est-ce que les banques centrales le surveillent autant? Et surtout, est-ce qu'elle représente encore une menace pour les investisseurs aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces points-là qu'on va démystifier ensemble. Commençons par la question fondamentale, Martin. Qu'est-ce que l'inflation?
Ben, c'est très simple. C'est l'inflation, c'est l'augmentation générale du prix des biens et des services dans l'économie. Donc, autrement dit, là, avec la même somme d'argent que l'année passée, ben, cette année, on achète moins de biens et services. Donc, c'est la perte du pouvoir d'achat au fil du temps à mesure que les prix augmentent.
Donc, lorsque les gens disent que ça coûte plus cher qu'avant, c'est essentiellement l'inflation.
C'est l'inflation, là. C'est normal. T'sais, prenons un exemple simple. Je vais à l'épicerie l'année passée, je remplissais mon panier, puis ça me coûtait 100 $. Mais si je mets exactement la même chose dans le panier cette année, ça me coûte 103 $.
Mm-hmm.
Bon, 3 piastres, c'est pas grand-chose. Mais si ce même 3 piastres-là s'ajoute à chaque année, puis là, c'est pas 3 $, c'est 3%, donc le pourcent s'applique sur le pourcentage de l'année passée et ainsi de suite. Ça devient à la longue une courbe exponentielle, donc sur 20-30 ans, ça érode quand même beaucoup le pouvoir d'achat.
Donc, c'est un peu comme une pente douce. On ne le remarque pas toujours au quotidien, quoique je trouve que les clients le mentionnent quand même. Mais après plusieurs années, la différence devient quand même assez visible.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a eu une période d'inflation à 9 %. Là,
ouais.
Au sommet de l'inflation 2022, on parlait de 9 %. Et ça, c'est beaucoup là, quand même.
Ouais.
Donc, que ce soit un peu choquant, là, quand c'est 2, ça paraît pas trop. Là, on a eu une longue période où c'était 1,5, 1,8. Là, ça allait bien. Là, à 9, 9, ça paraît. Là,
ouais, c'est ça. Donc, est-ce que l'inflation est nécessairement une mauvaise chose?
C'est pas une mauvaise chose, pas du tout. C'est même l'inverse. Il faut qu'il y ait de l'inflation. Par contre, il faut une inflation modérée. Les banques centrales visent 2 % par année d'inflation. Ça encourage les consommateurs à dépenser, ça encourage les entreprises à investir, puis les salaires progressent au fil du temps. Donc, tu sais, juste petite statistique, là, au Canada, l'inflation en mai, le chiffre de juin va sortir le 20 juillet, là, donc au mois de mai, l'inflation des prix était de 3,2, mais l'inflation des salaires, 3,7. Donc, oui, les prix augmentent, mais les salaires ont augmenté plus vite que les prix, donc on n'a pas trop perdu de pouvoir d'achat. Toutes choses égales par ailleurs. Hein? Il y a l'impôt et tout ça qui rentre en ligne de compte, évidemment.
Puis les banques centrales visent une inflation, hein? C'est ça, je comprends, 2 %?
Exact. Les banques centrales visent 2 %. Faut comprendre que la déflation, donc ça, c'est la baisse des prix, ça, c'est la catastrophe pour une économie. Pourquoi? Parce que les gens arrêtent de dépenser. Si je suis pour acheter une voiture, puis que je sais que le mois prochain, elle va coûter moins cher, puis de moins en moins cher, finalement, je ne vais jamais l'acheter, l'auto. Donc, je vais complètement arrêter de dépenser. Si je ne dépense plus, il n'y a plus de demande. S'il n'y a plus de demande, ben, les prix baissent. Si les prix baissent, j'arrête de dépenser. Puis, tu sais, là, on comprend là, que c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Là.
Donc, le problème, ce n'est pas l'inflation elle-même, c'est lorsqu'elle devient trop élevée.
Exact. C'est, donc, on veut une inflation à 2-ish.
Ouais. Okay.
Quand on est en haut de 3, ben, là, ça commence à être préoccupant pour les banques centrales. Là. Quand on est dans le bas 2, ça va. Dans le haut 2 ou autour de 3, là, les banques centrales commencent à se préoccuper.
Puis, depuis 2022, à peu près, on entend beaucoup parler de l'inflation en 2022, après la pandémie.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben, durant la pandémie, les consommateurs ils ont accumulé beaucoup d'épargne.
Mm-hmm.
Donc, on avait moins d'opportunités de dépenser de l'argent, donc l'argent s'accumulait dans le compte de banque. Quand ça a finalement réouvert, ben, à la fois, on avait beaucoup d'argent à dépenser, mais les chaînes d'approvisionnement avaient de la misère à subvenir aux besoins. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la demande est plus forte que l'offre? Puis ça, c'est économie 101, jour 1, le lundi matin à 9 h, c'est la première affaire qu'on apprend, l'offre et la demande, bien, les prix augmentent. Donc, on a eu, il y a eu des délais de livraison, les coûts de transport ont augmenté. Donc, il y a une espèce de tempête parfaite là, qui ont fait que l'inflation est tombée un petit peu hors de contrôle. On avait à ce moment-là Jerome Powell à la Réserve fédérale qui disait « Bon non, c'est une inflation qui est transitoire. » Bon, on entendait « transitoire 2-3 mois ». Finalement, ça a été plus 2-3 ans. C'était pas faux que c'était transitoire, mais c'est pas réglé encore. On est encore pogné dans du 3... C'est pas ce que la banque veut. Là. La banque veut 2. Donc, au Canada, ça va un petit peu mieux. Quand on regarde, par contre, l'inflation, c'est une mesure complète qui inclut l'énergie, l'alimentation, donc des composantes qui sont plus volatiles. Si on exclut ces composantes-là, bien, au Canada, on est à 2,1. Ah, ça fait notre affaire. Aux États-Unis, 2,6. pas tout à fait, tu sais. Donc, on est proche, là, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut.
Donc, l'essentiel à comprendre, c'est quand il y a plus d'acheteurs que de produits disponibles, les prix montent.
C'est comme si on compétitionne. Tu sais, moi, je veux le produit, toi, tu veux le produit. Il y en a juste un sur la tablette, je suis prête à payer un petit peu plus cher que toi.
Comme le papier toilette.
Hein? Comme le papier toilette.
Donc, quand l'inflation devient trop élevée, trop longtemps, que font les banques centrales?
Ben, essentiellement, les banques centrales disposent d'un outil principal qui est le taux directeur. Donc, les taux d'intérêt, c'est quoi le taux directeur? Là, c'est le taux à un jour, le taux auquel les banques empruntent de la Banque du Canada ou déposent leur argent excédentaire à la Banque du Canada. Ce taux-là va ensuite influencer le taux préférentiel que les banques offrent sur les emprunts aux clients. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, ben, mon emprunt coûte plus cher. Donc, si ça me coûte plus cher d'intérêt, ça me tente moins d'emprunter, j'ai moins de pouvoir d'achat, ça fait baisser un petit peu la demande. Donc, ça permet donc de réduire les dépenses, ralentir les emprunts, diminuer la demande, puis bon, calmer ultimement la hausse de prix. Les banques centrales ont aussi un deuxième outil qu'on a un peu inventé durant la crise financière en 2008, c'est les mesures quantitatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent intervenir directement sur les marchés financiers pour venir soit acheter des obligations. Donc, quand la banque centrale achète des obligations, elle achète l'obligation, elle rembourse le prêteur, donc ça fait de l'argent disponible dans l'économie. Inversement, bien, elle peut aussi arrêter d'en acheter, revendre des obligations, puis donc retirer de l'argent. Donc, on parle ici de masse monétaire. Là, on n'est plus dans le cours du lundi matin à 9h en économie. On est plus rendu à la deuxième session. Donc, dans la masse monétaire, si on influence la quantité d'argent en circulation dans l'économie, ça a un impact aussi sur le niveau de l'économie puis les prix ultimement.
Donc, si on résume ça, là, lorsqu'une hypothèque devient plus que coûteuse, ou que les prêts automobiles sont plus chers, c'est pas un hasard, c'est un mécanisme qui vise à ralentir l'économie, à ralentir notre demande.
Exact, c'est une médecine qui est efficace, là, tu sais, oui. Donc c'est juste que c'est pas une pilule facile à avaler pour le consommateur, là, quand les taux d'intérêt, on se souvient, hein, nos hypothèques à 6,5%, ben là, si je paye, tu sais, 200-300$ de plus d'intérêt par mois sur mon hypothèque, c'est 200-300$ de moins au restaurant puis pour acheter du linge et tout ça.
C'est ça, c'était moins le fun. Donc, l'inflation est beaucoup moins élevée qu'au sommet atteint il y a quelques années, on le sait. Devons-nous encore nous en préoccuper? Puis on en parle de plus en plus, notamment avec la guerre en Iran en ce moment.
Ouais. Oui, de façon différente, là. Donc, durant la pandémie, quand on est atteint du 9%, vraiment, c'était un problème d'offre. Là, les entreprises n'étaient juste pas capables de livrer les produits. Là, c'est vraiment plus une inflation. On n'est pas hors de contrôle. Là. Mais le principal risque, bon, on parle de la guerre, le prix du pétrole. Un baril de pétrole, c'est dans tout. Hein? Donc, tous les produits qu'on achète, ben, ils doivent être transportés dans un véhicule qui généralement utilise du pétrole. Plastique, c'est fait de pétrole et ainsi de suite. Donc oui, le risque d'inflation demeure élevé. On espère juste, là, on a vu Kevin Warsh hier là, devant le Congrès promettre, cogner sur la table presque, là, dire l'inflation, ce sera chose du passé, ils vont régler le problème.
Donc, parce que les prix continuent à augmenter, même si l'inflation ralentit.
Et donc, la désinflation et la déflation, c'est pas la même affaire. Donc,
oui,
ce qu'on veut, c'est la désinflation. Donc, on veut que les prix continuent d'augmenter, mais moins rapidement. La déflation, on veut que les prix baissent. On veut pas ça. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est comme si je roule sur l'autoroute à 100 km/h. Ben là, je veux pas me mettre à reculons puis reculer sur l'autoroute. Je veux juste baisser ma vitesse à 60 km/h. Okay? Donc, la désinflation, la baisse de l'inflation, on veut continuer d'avancer, mais moins vite.
C'est ça. Ralenti, Martin. Quel est l'impact de l'inflation sur les placements?
Bien, les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on augmente les taux d'intérêt? Bien, ça peut avoir un impact négatif sur la valeur des obligations. Ceci dit, le marché obligataire, c'est pas la banque centrale qui détermine le taux, c'est le marché lui-même. Et le marché lui-même a les yeux sur les chiffres économiques et anticipe les mouvements de la Banque centrale. Donc, les hausses de taux potentielles de la Banque centrale sont déjà reflétées dans le marché obligataire. Ça a aussi une augmentation du coût de financement des entreprises. Donc, si les entreprises payent plus d'intérêts, ben, ça fait moins de profit. S'il y a moins de profit, ben, généralement, ça peut avoir un impact sur le prix des actions. Ça peut ralentir un petit peu la croissance économique.
Donc, existe-t-il, avec tout ça, avec toutes ces inquiétudes-là, puis je pense qu'on parle beaucoup plus d'inflation aux États-Unis même, je pense que c'est une préoccupation même politique aux États-Unis.
Surtout, oui.
Existe-t-il des placements qui peuvent résister contre l'inflation?
Bien, historiquement, le marché des actions a fait mieux. Tu sais, essentiellement, l'inflation, le rendement qu'on réalise est toujours en lien avec l'inflation. Tu sais, si l'inflation est à 2 puis je fais 5 % de rendement, bien, je suis, tu sais, net plus 3. Ce qu'on veut, c'est donc battre l'inflation à long terme pour que augmenter mon pouvoir d'achat. Idéalement, même battre l'inflation après impôt. Donc, quelle classe d'actifs ont battu l'inflation au fil du temps? Bon, les actions. Ça ne veut pas dire qu'à chaque année, les actions battent l'inflation, on le sait, mais sur un cycle complet ou un horizon à long terme, les actions font très bien. L'immobilier aussi a été une bonne classe d'actifs, moins rentable que les actions. Puis là, les gens, ils ne me croiront peut-être pas, mais googlez, là, puis allez voir vous-même. C'est vrai. Certaines infrastructures, donc on parle ici, ça peut être des centres de données, des tours de cellulaire, des aéroports et tout ça, donc des infrastructures là, qui génèrent du revenu. Souvent, dans ces infrastructures-là, c'est qu'à la fois, on a une augmentation du coût, puis dans les contrats, il y a des clauses d'indexation à l'inflation aussi. Puis évidemment, les entreprises capables d'augmenter les prix. Puis là, je pense ici, tu sais, mettons Apple, là, tu sais, Apple, ils viennent d'augmenter le prix des iPhones, puis des iPads et tout ça. Puis, tu sais, on va acheter pareil, parce que tout le monde veut avoir ce produit-là. Microsoft est capable d'augmenter les prix. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si Microsoft décide d'augmenter le prix de la suite Microsoft 360? On n'a comme pas le choix, là. C'est les seuls qui offrent ce genre de produit-là. Donc, vraiment, il y a certaines entreprises là, qui contrôlent le prix. C'est sûr que de laisser son argent dans un compte d'épargne, puis là, parce que l'aversion au risque, on ne veut pas perdre d'argent. Ben, si l'inflation est à 2 puis je fais 0, je perds 2 par année. Donc, de ne pas tolérer la volatilité, en fait, c'est une garantie de perdre son pouvoir d'achat au fil du temps. Donc, pas nécessairement de perdre la valeur nominale de son argent, mais votre argent vaut de moins en moins au fil du temps. Il faut investir de façon à au moins à côté l'inflation, idéalement battre l'inflation.
Donc, autrement dit, le risque n'est pas seulement la volatilité. Hein? Le risque peut aussi être de ne pas faire croître son capital suffisamment rapidement.
Puis, tu sais, la baisse de valeur d'un portefeuille, là, on reçoit notre relevé, puis on s'en rend compte. L'inflation, on s'en rend pas tant compte, puis on fait pas nécessairement le lien entre mon CPG de 100 000 $ à la banque qui, net d'impôt, me rapporte à peine 1,5 peut-être, puis le fait que ça me coûte 2,6% de plus. Donc, j'aurais dû dépenser mon argent l'année passée, essentiellement, si je suis un investisseur, 100% garanti. Évidemment, parenthèse, les objectifs de chacun varient, là. Donc, ça peut être correct là, quand même d'être investi dans des placements si on a des besoins à court terme, mais il faut quand même à long terme battre l'inflation.
Exactement. Alors, comment les investisseurs devraient-ils réagir face à cette réalité?
Avoir un portefeuille diversifié, là, on rejoue la même cassette. Hein. Il n'y a pas de recette miracle dans l'investissement. Il faut demeurer diversifié. Il faut investir selon ses objectifs. Donc, si on a un profil X, ben, on doit avoir un portefeuille qui reflète ce profil-là en tout temps et éviter de s'écarter trop. Donc, on peut laisser, si on est 60% action, puis on monte à 62, 63, c'est correct. Mais éventuellement, il faut revenir à 60. Ça implique donc de vendre des actions puis de racheter peut-être un petit peu de revenus fixes. Conserver une vision à long terme. Malheureusement, là, en 25 ans de carrière, j'ai toujours pas appris à anticiper les marchés baissiers. On ne sait pas quand ça va arriver. Par contre, on sait que si on traverse les marchés baissiers, à long terme, on finit par avoir une bonne performance. Puis éviter de réagir aux manchettes du moment. Là, tu sais, les journalistes, les médias, Ben, leur métier, c'est de vendre de la publicité, c'est d'attirer votre attention et la peur est un outil très efficace pour attirer l'attention des auditeurs. Donc, oui, si on parle, ah, ça va mal et ça coûte cher, oui, c'est tentant de réagir plus fortement que la réalité. Un bon portefeuille bien diversifié, ça a fait ses preuves au fil du temps. Il faut éviter d'avoir peur des manchettes. Généralement, les probabilités sont élevées que si on investit de façon diversifiée à long terme, le résultat va être positif.
Exactement. Donc, si on maintient notre discipline, si on est patient, ben, on va être récompensé pour notre patience. Donc, on va dire aujourd'hui, on a appris que l'inflation représente la hausse générale des prix dans l'économie. Elle réduit progressivement le pouvoir d'achat. Un faible niveau d'inflation est normal et même souhaitable. Une inflation trop élevée peut nuire aux consommateurs, aux entreprises et au marché. Même lorsque l'inflation ralentit, les prix continuent généralement d'augmenter. Pour préserver son pouvoir d'achat à long terme, il est essentiel d'investir de manière disciplinée.
Tout
Donc,
simplement.
on arrive toujours à la même conclusion, bien diversifier, discipliner, regarder l'horizon à long terme et nous contacter si on s'inquiète. Donc, merci beaucoup, Martin, et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant l'inflation, les taux d'intérêt, votre portefeuille ou vos objectifs de planification, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.